Au quotidien, avec Hélène Denis.
Mais aujourd'hui, pas le vendredi 13, mais le mercredi 13 mai 2026, une journée quand même assez grise de votre côté. Je ne sais pas si c'est gris, parce que en direct de Montréal, je peux voir qu'à l'extérieur, c'est assez nuageux. Je sais que mon collègue ami, Denis Martin Chabot, lui, fait vraiment le tour du Canada, hein, météorologiquement parlant, là. On pourrait regarder Environnement Canada en direct.
Ben, en tout cas, du côté studio, c'est ensoleillé.
Ah oui?
Ben oui. On va commencer par là.
C'est donc gentil, ça, Mathieu. Parce que, oui, on annonce de la pluie aujourd'hui dans la grande région métropolitaine. Mais si je vais sur le site d'Environnement Canada, il y a quand même des soleils un petit peu partout, là, Whitehorse, Yellowknife, actuellement, Prince George, Edmonton, Calgary, Saskatchewan. Ben, Calgary, c'est Edmonton, n'est-ce pas?
Hein? C'est dans la même province.
C'est dans la même province, c'est ça. Ah, la géographie. Saskatoon, soleil, nuages. Je vois de la pluie du côté de la capitale de Vancouver, en Colombie-Britannique. Oui, la capitale de la Colombie-Britannique. Hey, je veux vraiment, là. Avez-vous de moi, Mathieu? Me regarde, là, il se ronge les ongles. Non, non, quand même, là.
Non, c'est de l'anxiété de performance que j'ai.
Ah, OK, moi aussi, d'ailleurs. On a ça en commun. Ontario, il y a de la pluie. Puis pour l'instant, je vois des nuages à Montréal, puis du soleil dans les provinces maritimes. Alors, profitez-en s'il y a des rayons de soleil par chez vous. Et puis nous, il va revenir en fin de semaine. Vous savez que c'est la longue fin de semaine? Samedi, dimanche, lundi. On aura congé lundi et nous serons de retour mardi. Donc, moi, j'y serai mardi. Habituellement, c'est Denis Martin par les temps qui courent le lundi. Mais là, il n'y a pas d'émission lundi. C'est la longue fin de semaine. Celle qu'on a entendue rigoler, je ne sais pas si c'est rien de moi, mais enfin. Allô, Isabelle.
Bonjour, maintenant, je riais avec vous.
Bien oui. J'en suis convaincue. Aujourd'hui, bien, ça prend du soleil, mais ça prend aussi de la pluie pour faire pousser les légumes.
Mais les tomates ont quand même besoin de beaucoup de soleil.
Oui.
Je suis pas sûre que, en tout cas, on n'est pas encore rendu à planter nos tomates en ce moment. Là, c'est très, très froid.
Malgré qu'il y en a qui sont très pressés, hein?
Oui, mais les tomates, on peut pas. Il faut qu'ils soient encore à l'intérieur.
À moins que tu veuilles faire patate avec tes tomates. Tes plantes tout de suite.
Oui, c'est ça. Mais oui, effectivement, je vais vous parler de tomates, mais plus spécifiquement, tomates génétiquement modifiées. Apparemment, ça serait une première depuis les années 1990 qu'on retrouve ce type de tomates au Canada, dans les épiceries.
C'est super, ça. Aimez-vous les tomates?
Moi, j'adore les tomates, pour vrai. Je suis le public cible de cette tomate. Vous allez voir que, évidemment, ça suscite un débat sur les modifications génétiques en général, mais la tomate en tant que telle, elle a l'air vraiment appétissante.
Oui, c'est tellement bon. Une vraie, vraie bonne tomate. Alors, j'ai parlé de Calgary, Edmonton, puis Edmonton, c'est dans la province de l'Alberta. Oui, Mathieu Akis. Opine du bonnet. Alors, j'étais pas dans le champ, finalement. J'étais peut-être à l'abri du tempo, je ne sais pas, mais c'est la chanson qu'on va vous présenter avec Mélissande et Damien Robitaille. Mais d'abord, je vais continuer là, de vous parler du menu d'aujourd'hui. Nous aurons la chance de rencontrer Nathan Loignon. Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission « Quel talent ». Nathan, c'est un pianiste, compositeur, une personne autiste qui vit avec une dysphasie et un TDAH. Il sera avec nous et accompagné de son père pour nous présenter l'album « Douce folie saisonnière ». C'est quelque chose, c'est très touchant. On va vous faire entendre quelques pièces de cet album. Il y en a 12 pièces en tout. Nous rencontrerons également la réalisatrice d'un film que j'ai beaucoup aimé, qui parle des bienfaits de la marche avec énormément d'originalité. D'ailleurs, le film est à l'affiche en ce moment. Le long-métrage documentaire s'intitule tout simplement « À pied ». Et nous aurons de la belle grande visite, celle de Marjorie Théodore, un nom qui vous dit certainement quelque chose, PDG de Vues et Voix, qui est donc la présidente directrice générale. Elle sera avec nous pour nous parler de Vues et Voix, qui a 50 ans cette année. Et que le temps passe vite quand même, quinquagénaire notre Vues et Voix. Voici À l'abri du tempo.
toi dans le flow. Ne reste pas à l'abri du tempo.
Ne reste pas à l'abri du tempo. Ne reste pas à l'abri du tempo.
C'était Damien Robitaille et Mélissandre dans la chanson « À l'abri du tempo ».
Et il y avait du tempo là-dedans.
Tout à fait.
À la une du devoir, relations internationales, que faut-il attendre du sommet Trump-Xi ou... Mais j'ai fait des recherches là, pour savoir comment on prononçait le X-I, c'est vraiment Xi Jinping. Et la rencontre prévue cette semaine entre le président américain Donald Trump et le leader chinois Xi Jinping marque une première en près d'une décennie pour les deux pays. Sur la photo qui est à la une du devoir, on voit Trump qui embarquait à bord de l'Air Force One hier pour son vol vers la Chine. La visite était attendue et les attentes sont élevées. Pour la première fois en près d'une décennie, un président états-unien est en Chine pour y rencontrer son vis-à-vis. Le sommet qui se tiendra de mercredi à vendredi à Pékin a pour objectif d'apaiser la relation entre les deux plus grandes économies de la planète. Mais les présidents Donald Trump et Xi Jinping y parviendront-ils? Le devoir fait le point avec deux experts. C'est un texte signé Magdalene Boutros. Je vous lis la première question. Pourquoi cette rencontre est-elle si importante? Ce sommet réunit les deux superpuissances de la planète. C'est la relation bilatérale la plus importante dans le monde, souligne Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur canadien en Chine. Ce qui sera conclu ou non lors de cette visite aura un impact considérable sur le reste du monde et particulièrement sur la région Asie-Pacifique. Alors que l'ordre mondial se trouve à un tournant, ce sommet réunit la superpuissance en essor, la Chine, et l'autre en déclin, les États-Unis, ajoute Margaret McCraig Johnston, chercheuse principale à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, pour illustrer l'importance de ce qui est en jeu. Les irritants entre les deux géants sont nombreux, guerre tarifaire, restrictions aux exportations, visées géopolitiques, etc. Depuis la dernière visite de Trump en Chine en 2007, l'empire du milieu a gagné en puissance et a consolidé l'image d'un partenaire plus fiable que les Américains, surtout depuis la réélection de Trump, analyse M. Saint-Jacques. Pour ce sommet, c'est donc la Chine qui a le gros bout du bâton. Et toujours à la une du devoir, le culot de Romain F. Dubois sur la croisette. Romain F. Dubois n'est pas du genre à demander la permission. Son projet de court-métrage « Skinny Bottine », systématiquement refusé par les organismes subventionnaires, devait se faire coûte que coûte, explique au devoir le cinéaste montréalais dans la jeune trentaine. Toutes ces tentatives de financement ont duré 3 ans et je sentais que la pulsion de faire le film allait me glisser entre les doigts Il a donc financé la production lui-même en puisant dans son portefeuille de Bitcoin. C'était un peu un gamble, admet-il, un pari que même ses espoirs les plus fous n'auraient pas osé formuler. En effet, Skinny Bottine n'a pas seulement été achevé au terme d'une production guérilla, s'étant étiré sur quelques 2 années, mais il s'impose aussi comme la seule et unique œuvre exclusivement canadienne présentée cette année au Festival de Cannes, tout volet confondu. La perspective de fouler le tapis rouge cannois un jour, Romain F. Dubois n'y a jamais pensé. Il ne se le permettait même pas en rêve. Tant que le travail n'est pas fait, précise-t-il avec pragmatisme. Et puis, à la une du Journal de Montréal, hockey évidemment battu par un but bizarre. Et on voit le gardien de but, Jacob Dobèche, qui semble découragé. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer le combat. Et ça se poursuit demain. Rien n'est joué. Sondage Synopsis La Presse est à la une de La Presse Plus, évidemment. Le PQ et le PLQ sont à égalité, tandis que la CAQ revit, selon notre coup de sonde réalisé à 4 mois du déclenchement de la campagne électorale. Et il y a du hockey aussi à la une de La Presse Plus. Retour à la case départ, Sabre 3, Canadien 2. Et on parle de la victoire en finale grâce à Poulain. « Emmenez-moi au bout de la terre », chantait Charles Aznavour dans les haut-parleurs émanant du vestiaire de la victoire de Montréal mardi soir. « Emmenez-moi au pays des merveilles. Ce n'est jamais une mauvaise idée de faire jouer du Aznavour », se disait-on entre journalistes dans la salle de presse. Et le classique de la chanson francophone était particulièrement dadon mardi. C'est que pour la première fois de son histoire, après 2 ans d'échecs en série, la victoire pourra espérer atteindre la dite terre promise. Elle a confirmé sa place en grande finale en vertu d'une victoire de 2-1 face au Frost du Minnesota dans le 5e et dernier match de la demi-finale des séries de la LPHF.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes de reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont, pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 di, la, la, la.
Prendrait encore et encore Aznavour et sa chanson « Emmenez-moi ».
Quel interprète fabuleux. Une nouvelle tomate violette. Je suis en train de la regarder, Isabelle, et je me disais à quoi ça goûte. Et Mathieu dit à l'aubergine. Et est-ce que c'est un fruit, une fleur, un légume? Allez-y.
Ben, la tomate, c'est un fruit, évidemment, mais
oui.
qu'on mange comme un légume.
Mais on fait des blagues parce que ça s'appelle tomate violette. Puis il y a plusieurs personnes qui pensent encore qu'une tomate, c'est un légume.
Oui, qu'est-ce que vous voulez.
Bon, j'arrête de vous couper la parole.
Non, c'est correct. On est là pour ça, pour discuter. Et puis, c'est ça, ça suscite la discussion sur les OGM. C'est pas une discussion qui était éteinte du tout, là, mais disons que ça la ranime un peu, cette apparition d'une tomate. Là, au moment de... où l'article a été écrit le 28 avril, on disait, il y a deux semaines. Donc, c'est quand même tout récent. Et c'est un article de Karine Monat que j'ai trouvé sur le site de Radio-Canada qui est inspiré par la chronique La Semaine Verte. Donc, La Semaine Verte, qui est une émission de Radio-Canada, mais qui a une chronique à l'émission Midi Info de...
Alex Castonguay.
Alec, oui, voilà. Et le 28 avril, si vous allez voir, là, vous pouvez trouver la chronique si vous préférez l'écouter dans son entièreté. Mais donc, c'est ça, on nous parle de cette tomate génétiquement modifiée. Elle est violette jusque dans sa chair et cette couleur est due à l'introduction dans son ADN de deux gènes de mufliers, cette fleur qu'on appelle aussi gueule de loup. Et donc, ça augmente la quantité d'anthocyanine. Et l'anthocyanine, c'est un antioxydant qui est responsable des couleurs violettes et bleues dans de nombreux fruits et fleurs et légumes. puisque vous avez mentionné les aubergines, mais les aubergines en contiennent, le chou rouge, mais aussi les bleuets et d'autres tomates. En fait, les tomates contiennent déjà, c'est juste que là, on en a ajouté davantage. Derrière le pouvoir antioxydant donc de ces tomates qui est mis de l'avant par l'entreprise américaine en biotechnologie Norfolk Healthy Produce, c'est un avantage majeur pour l'industrie qui se dessine, puisque en plus d'avoir plus d'antioxydants, elle a une durée de conservation deux fois plus longue que les tomates rouges ordinaires.
Ah ça, oui, deux fois?
Clairement, oui. On voit clairement que c'est ce qui est le plus intéressant pour l'industrie. Évidemment, là, le Nathan Pomplin, qui est le PDG de Norfolk Healthy Produce, il présente ça comme un moyen de contrer le gaspillage alimentaire. Et c'est vrai, effectivement. Mais c'est aussi plus rentable là, d'acheter une tomate qu'on va pouvoir garder sur nos tablettes plus longtemps avant qu'elle soit moins belle. En fait, c'est que l'augmentation d'anthocyanine allonge la durée de vie en retardant le mûrissement des tomates après leur récolte, mais aussi en diminuant leur sensibilité à la moisissure grise. Et apparemment, tout ça sans avoir d'impact sur leur goût, qui apparemment ne s'éloigne pas de celui des autres tomates.
Il faudrait goûter pour le confirmer.
Ben oui, voilà. J'ai pas pu la mettre la main dessus parce que pour l'instant, elle a été vendue brièvement au Québec dans un magasin Métro des Laurentides, apparemment, mais ils s'en sont rendus compte. Apparemment que Métro a une politique contre la vente de l'aliment génétiquement modifié. Bref, pour l'instant, c'est en Ontario et je pense en Colombie-Britannique aussi. Elle a été autorisée pour utilisation alimentaire par Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la CIA, en août 2025. Elle est cultivée en Ontario, dans les serres de Red Sun Farms, depuis le début de 2026. Et donc, maintenant, elle est vendue par l'Oblast, si jamais ça vous intéresse.
Voilà, en Ontario.
C'est donc Red Sun Farms qui produit et commercialise cette tomate violette aux États-Unis depuis 3 ans. Le vice-président des ventes et du développement commercial, chez Red Sun Farm, qui s'appelle Harold Paivarinta, il indique que les ventes augmentent chaque année. Chez Santé Canada, on précise que les anthocyanes, qui sont présentes dans la tomate violette, dans des quantités similaires à celles trouvées dans d'autres aliments couramment consommés, comme les mûres, les myrtilles, les cerises, les raisins rouges, les aubergines, etc. mais y compris d'autres variétés de tomates. Donc, apparemment, il y aurait déjà des tomates qui auraient des quantités similaires d'anthocyanine. Pour Frédéric Thériault, qui est agronome, agriculteur et vice-président du réseau des fermiers et fermières de famille, c'est inutile d'ajouter des anthocyanines dans une tomate parce qu'il y en a dans plein d'autres aliments et parfois même plus. Il nous donne en exemple, encore une fois, la fameuse aubergine qui en contient 3 fois plus que la tomate violette et aussi le chou rouge et certains raisins noirs. Et bien sûr, il y a les bleuets qui sont connus pour leurs propriétés antioxydantes et qui en contiennent plus. Mais de son côté, Nathan Pomplin, qui commercialise la tomate, dit que les gens mangent de 10 à 20 fois plus de tomates chaque année que de bleuets. Donc, c'est une très bonne occasion d'intégrer la tomate violette dans notre alimentation. On ne peut pas être contre la bonne santé, n'est-ce pas?
N'est-ce pas?
Mais, Frédéric Thériault rétorque, il y a déjà plein de tomates mauves qui sont pleines d'antioxydants, des semences du patrimoine qui sont facilement disponibles sur le marché.
Ils s'entendent pas, ces deux-là. Hein?
Non, c'est ça. Il y a la variété Indigo Rose, donc si ça vous intéresse. Et ça ne coûte pas 20 $ pour 10 semences. Ouais. Parce que vous allez voir plus loin, on peut aussi se procurer les semences de cette tomate OGM. Hmm.
À prix élevé, on dirait.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça représente la tendance OGM actuelle qui consiste à modifier les aliments pour qu'ils soient meilleurs pour la santé avec plus d'antioxydants, plus de vitamines ou autres. Alors que la première vague d'OGM est celle qui suscitait vraiment, vraiment l'indignation. Ça avait pour vocation de faciliter les cultures. Hein. Vous savez, les fameux OGM de Monsanto, qui étaient rachetés par la suite par Bayer, qui avaient pour but de les rendre résistantes aux pesticides, ce qui, évidemment, cause l'utilisation de plus en plus de pesticides, et ça, c'est très, très nocif pour la santé. À mon avis, c'est ce qui a suscité la grande résistance aux OGM.
On peut comprendre.
Hein? Exactement. Il faut savoir que le seul autre fruit génétiquement modifié qui est disponible sur les tablettes au Canada, apparemment, c'est l'ananas Pink Glow. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est de la compagnie américaine Fresh Del Monte. Donc, c'est un ananas rose, comme son nom l'indique. Et sa chair rose résulte de l'ajout d'un caroténoïne, cette fois-ci le lycopène, qui est aussi un antioxydant. C'est celui qui donne au melon d'eau, à la papaye et à la tomate leur teinte rosée. Donc, le monsieur Paivarinta de Red Sun Farms, qui commercialise et qui fait pousser cette tomate-là, dit « En tant que Nord-Américain, on doit revoir notre rapport à l'alimentation » et nous tourner vers la science pour améliorer notre nutrition, plutôt que de nous contenter de créer des médicaments pour traiter les maladies liées à l'alimentation, comme l'obésité, le diabète, la malnutrition. Évidemment, c'est vrai que c'est mieux de prévenir que de guérir. C'est pas sûr que ça soit une panacée, mais c'est quand même une bonne intention, on va dire. Mais évidemment, encore une fois, Frédéric Thériault, lui, ce qui l'inquiète, c'est que ces nouveaux OGM cachent la presque totalité des OGM qui sont en réalité le soya, le maïs, le canola, le coton, conçus pour des raisons économiques. Donc, en fait, la peur de gens comme Frédéric Thériault, c'est que ces bons OGM, entre guillemets, nous fassent accepter indirectement les mauvais OGM.
Ouais.
Je suis pas sûre que ça soit une super bonne raison. Il y a peur qu'on s'habitue aux OGM parce qu'on les accepte pour des bonnes raisons, puis qu'après ça, on arrête de se défendre contre les OGM qui sont créés pour des mauvaises raisons. C'est peut-être pas... Il n'y a peut-être pas tort, mais bon, ça reste à prouver.
Mais ça fait réfléchir, en tout cas. Je trouve que c'est oui. Matière à discussion là, et à débat. Bien, il y en a déjà un dans l'article que vous lisez.
Oui, bien non, c'est ça. Puis évidemment, bien, le problème, c'est qu'il n'y a pas au Québec et au Canada d'étiquetage obligatoire des OGM. C'est le cas en Europe, c'est le cas maintenant aux États-Unis, apparemment. Mais ici, on est encore en retard à ce niveau-là. Et donc, d'une part, les producteurs biologiques doivent s'assurer qu'il n'y a pas d'OGM pour avoir la certification, mais d'autre part, tous les autres producteurs n'ont pas du tout l'obligation de l'indiquer sur leurs produits. Et ça, c'est pas très équitable, encore une fois, aux yeux de Frédéric Thériault. Mais d'un autre côté, comme lui, il représente des producteurs biologiques, mais pour eux, ça peut être un avantage parce que ce qui l'indigne plus, c'est qu'on ne soit pas obligé de l'indiquer parce que
Mais il faut informer le consommateur de ce qui s'apprête à acheter et à manger.
C'est ça. Mais le fait que ça ne soit pas indiqué, bien, ça fait en sorte que seuls les aliments biologiques sont certifiés sans OGM. Donc, pour le moment, le seul moyen d'être sûr de ne pas en avoir, c'est d'acheter biologique. Donc, ça peut être indirectement positif pour les producteurs biologiques.
Oui, prêche pour sa paroisse, d'une certaine façon.
Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est sûr que je pense que le débat n'est pas prêt de s'éteindre. On est quand même en retard sur l'Europe, hein, parce qu'en Europe, l'étiquetage des OGM, petit quiz, là, c'est depuis quelle année? Vous pensez que c'est obligatoire?
Oh.
On est en 2026, là.
Oui. Pourriez-vous répéter la question?
En Europe, l'étiquetage des OGM est obligatoire depuis quelle année?
Bon, j'imagine que c'est assez surprenant comme réponse. C'est récent?
C'est pas récent, c'est 1997.
Ah, OK.
Donc, ça fait 20 ans là-bas. 30 ans.
Ben, 29 ans.
29 ans, c'est ça?
Presque 30.
Et ici, ça ne l'est toujours pas. Donc, on est quand même en retard.
Oui, on est en retard là-dessus, de ce point de vue-là.
Voilà.
Bon.
Et donc, mais c'est ça, on n'est pas prêt de... Ah, je vais quand même vous donner une petite note positive. Le chercheur... Ah oui, c'est ça, parce qu'il y avait une autre crainte, c'était que cette tomate-là se mélange aux semences des producteurs d'autres tomates et que là, ils soient obligés de cultiver des OGM sans le savoir. Mais il y a le chercheur en biologie végétale, Daniel Kierskowski, de l'Institut de recherche en biologie végétale ici à Montréal. Lui dit que les risques de contamination croisée sont très faibles pour plusieurs raisons. D'abord, les tomates sont autofécondes, donc le plant se pollinise lui-même. Et en plus, les plants de tomates ne survivent pas à l'hiver, du moins au Québec, donc ils vont être détruits à la fin de la saison, même s'ils s'étaient mélangés dans les champs. Et finalement, bien évidemment, si une contamination arrive, l'agriculteur va bien voir que sa tomate est violette. Il va savoir que c'est pas celle qu'il avait plantée.
En tout cas, Isabelle, la tomate violette, je trouve qu'elle ressemble, quand elle est fermée, à une prune noire. Et je sais pas, je suis peut-être traditionnelle, plus que crémeuse, mais j'aime bien la tomate rouge et la chair d'un ananas jaune, mais je suis quand même prête à l'expérimenter si ça me tue pas, là. Et je voulais juste vous dire, 5 secondes, votre... Je vous le dis au retour de la pause. Mais vous en allez? Est-ce que vous en allez? Oui, restez là.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Bien oui, Isabelle, je ne voulais pas vous laisser sur une patte, là, parce que j'avais 4 secondes pour vous dire que lorsque vous avez fait votre chronique à propos des épiceries publiques, eh bien, on a eu des échos de ça. Et depuis ce temps, ben, je sais que vous avez trouvé cet article-là, je crois bien, sur le site de Radio-Canada, un texte de Philippe de Montigny, c'est bien ça? Est-ce que vous vous en souvenez?
Semble-t-il, oui.
Oui. Bien, on en entend parler partout. Là, je ne sais pas si... Oui, Radio-Canada a du poids. Mais votre chronique aussi, j'en suis convaincue.
Merci. Mais en fait, moi, j'en avais entendu parler plusieurs fois avant de finir par en parler. Donc, je ne suis pas tellement étonnée que vous me disiez ça. C'est dans l'actualité en ce moment.
Oui, très intéressant. Alors, on y reviendra peut-être. Mais sinon, je vous laisse aller puis je vous dis à la prochaine. Merci.
Bonne journée.
Alors là-dessus, on passe à la bande annonce d'un film que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé. C'est un long métrage documentaire qui s'intitule « À pied ». On écoute la bande annonce et tout de suite après, on parle avec la réalisatrice.
Les pas qui nous conduisent à destination sont aussi ceux qui racontent notre histoire. Mais au-delà du mouvement, il y a la manière de prendre sa place dans l'espace.
Quand on marche, on réfléchit à notre passé, on voit le présent, on voit la nature, on voit les choses de façon différente. Le temps est long quand on marche.
What is unusual about humans today is not our ability to walk, it's the fact that we don't do it very much anymore.
Having the opportunity to design my own legs just made me want to try absolutely everything.
Chaque démarche est un langage qui raconte ce qu'on est.
Quand le robot marche, à la fin, on ne sait pas comment il est arrivé.
1000 choses peuvent nous passer à travers le corps dans une marche. Ça dépend où on marche, pourquoi on marche, avec qui on marche. Marcher vite, marcher lent, marcher de reculons.
Il y a autant de raisons de marcher qu'il y a de gens qui marchent. Suivre leurs traces, c'est écouter ce qu'ils ont à raconter. Sous leurs pas, c'est notre histoire qui s'écrit.
But we're not trying to get somewhere, are we?
No.
Yeah. Just walking.
Yeah.
Oh oui, on n'est pas obligé de savoir où on va quand on décide d'aller faire une marche. Valie Fugulin, la réalisatrice de ce long métrage documentaire À pied est au bout du fil. Bonjour Valie.
Bonjour.
Quelle bonne idée de créer un film qui raconte la marche de différentes façons avec différentes personnes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer un film entier à la marche?
En fait, c'est venu d'un ami et collègue, Raphaël Etoré, qui a vécu un deuil pendant la pandémie, le deuil de sa grand-maman, qui l'amenait marcher beaucoup, beaucoup quand il était petit. Donc, il est parti sur les traces un peu de leur marche d'enfance. Il s'est rendu compte que ça lui faisait beaucoup de bien. Donc, il est tombé dans une recherche sur pourquoi la marche fait du bien. Et il m'a proposé le sujet en me disant, Valie, il faut absolument faire un film là-dessus. Et je vous avoue qu'au début, j'étais un peu dubitative. Je me disais, est-ce qu'il y a vraiment tant de choses à dire sur un acte qui est, en fait, on peut sembler un peu banal. Puis après quelques heures de discussion, j'étais rendue convaincue, passionnée et j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure pour faire ce film.
Êtes-vous vous-même une marcheuse ou le film, le fait de réaliser le film vous a donné envie de devenir une marcheuse?
J'étais une marcheuse, je vais dire, pas très
assidue,
pas très assidue. Et le film a vraiment changé ça parce que maintenant, au lieu de voir ça comme quelque chose de fatigant, je vois ça comme quelque chose de réparateur. Donc des fois, quand je pars de chez moi, je me dis ah c'est peut-être un peu loin et tout. Je me dis ah mais non, mais je vais me réparer le cerveau, le corps, les organes, les pensées en marchant. Donc je marche beaucoup. Plus qu'avant grâce au film.
Ah oui, et je vous dirais que ben je l'ai regardé le film, j'ai beaucoup aimé et ça m'a donné une espèce d'élan de pulsion parce que j'aime marcher mais comme vous, ça me prend quelquefois un petit coup de pied à l'arrière-train. Et puis hier, je revenais du travail, j'étais fatiguée, mais là, je pensais à votre film, je me disais, ça va me faire du bien. Alors, je suis partie, j'ai fait une marche et c'est vrai, ça fait toujours du bien. Alors, vous avez rencontré des scientifiques, des artistes, des marcheurs qui ont des parcours très différents. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns? Brièvement.
Oui, bien sûr. Alors, je voulais que chaque personne protagoniste dans le film soit des marcheurs ou des passionnés de la marche par la science. Et puis, bon Dieu, mes coups de cœur, il y en a plusieurs, mais il y a Madame Yamada, une femme japonaise qui marche dans son quartier, tout simplement. Elle a commencé à marcher à 70 ans, et puis maintenant, à près de 90 ans, elle constate que ça lui fait du bien, physiquement, mentalement aussi, mais surtout, elle dit « Ah, mais je me suis fait des amis ». Donc, elle vit dans un quartier piéton à Tokyo, et elle marche pour aller vraiment à la rencontre des autres, pour fuir une certaine solitude, on peut présumer. Et donc, ils ont fondé une genre de patrouille de sécurité pour lutter contre les nombreux cambriolages. Apparemment, il n'y en a pas souvent. Mais on voit dans le film que finalement, cette patrouille de sécurité avec une douzaine de nonagénaires...
Parce qu'il y a des maisons vides, hein, à un moment donné... Cette patrouille-là est née du fait que les mères qui vont chercher les enfants à l'école, ça fait en sorte que la maison est vide. Le père, je ne sais pas où il est, là, mais en tout cas. Et eux, cette patrouille-là va vers ces maisons-là pour assurer la sécurité.
Oui, sauf que la petite histoire, c'est qu'il y a eu un cambriolage il y a 20 ans. C'est plutôt une excuse
pour un petit
club social de marche, d'après moi, mon analyse. Donc, à tous les jours, ces nonagénaires marchent dans le quartier et ils se racontent leur vie. Et comme dit Madame Yamada, des fois, ça donne l'occasion de parler de choses qui sont plus difficiles à aborder. Donc, c'est vraiment un club de marche pour une bonne cause.
Oui, et c'est vrai que la marche, c'est comme un kaléidoscope. Il y a plein de raisons, il y a plein de façons de marcher. On peut s'arrêter, parler, mais aussi on peut faire ça de façon tout à fait solitaire. Il y a le chirurgien Stanley Volant qui fait une longue marche. Son but est différent. Louise Le Cavalier, la chorégraphe, en parle aussi avec énormément de poésie. Vous avez rencontré des personnes précieuses, riches.
Oui, je voulais vraiment que ce soit des gens auxquels on peut s'identifier. Donc, il n'y a personne dans le film qui est des marcheurs de performance, là, qui ont fait le tour du monde 3 fois ou qui marchent tous les jours 10 000 pas, absolument. C'est vraiment des gens qui chacun à leur manière, marchent, mais pour des raisons très différentes. Donc, Dr. Volant, comme vous avez mentionné, bon, lui, il a marché quand même des grandes distances.
Il y en a un qui marche aussi comme les autres. Il imite la démarche de plusieurs personnes dans la rue.
Dont le travail est d'imiter la démarche des gens. Puis c'est comme un sage aussi, un scientifique de la rue. Lui étudiait avec Marcel Marceau. Puis il nous raconte comment la démarche nous révèle. Après ça, il y a un roboticien qui essaie d'apprendre aux robots à marcher comme nous. Il y a Louise Le Cavalier qui parle de la marche qui peut devenir une danse. Mm-hmm. On a un vendeur de gâteaux dans la favela qui marche 5 heures par jour. C'est très difficile. Mais
lui, il aime ça.
Oui, il aime marcher. Ouais. Il aime marcher parce que lui, c'est comme un lien social, on dit. Là. Tu sais, il rallie un peu toute la communauté par son travail qui l'amène à marcher un peu partout.
Mais vous avez voyagé beaucoup pour réaliser le film.
Oui, en toute petite équipe. On a tourné à deux. Mon conjoint et moi-même, on a tourné.
Donc, pendant combien de temps?
Ah, ça s'est étiré sur quelques mois, mais vous savez, c'est au total, c'est très peu de jours. On essaie d'être très efficace. Mais oui, ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin, d'être comme ça en micro-équipe. Mais on voulait vraiment un film qui fasse sur grand écran, vraiment, tu sais, qui nous fasse voyager. Donc, c'est vraiment un film qu'on voulait beau pour montrer aussi la diversité des paysages, des terrains sur lesquels le pied se pose. On a aussi notre protagoniste, tu sais, qui a une jambe, qui a eu une amputation. Donc, c'est important pour nous aussi d'aller à la rencontre de gens dont la démarche n'est pas nécessairement traditionnelle et celle qu'on voit habituellement.
C'est magnifique. Les rencontres qu'on fait sont vraiment fascinantes, passionnantes et touchantes aussi. Et ce que je voulais dire aussi, que l'environnement sonore est agréable. Vous avez fait appel à un compositeur. Il y a aussi des chansons. Oui. Une chanson, entre autres, qui a été composée par Stéphane Lafleur. J'ai vu ça dans le générique. Puis la voix de Sylvie Drapeau.
Sylvie Drapeau, oui, qui est magnifique. Je voulais une narration qui puisse unifier cet univers-là, puis qui puisse nous faire réfléchir à la marche, même au-delà de ce que les personnages, les protagonistes nous apprennent, nous montrent. Je voulais un peu une voix qui réfléchit à tout ça, mais de manière non compliquée, là, si je veux dire, de manière simple. Et puis,
elle n'est pas là pour nous faire la morale.
Oh non, c'est pas un film qui prêche quoi que ce soit. Mais c'est un film qui donne envie.
Oui, je m'excuse, j'ai l'impression que je vous interromps, mais on dirait que je suis emballée par le film. Mais puis en plus, le temps nous presse un peu aujourd'hui. Mais votre film arrive à une époque où justement tout va très vite et on cherche constamment à optimiser notre temps. Est-ce que vous pensez que marcher, c'est devenu une forme de résistance?
Marcher, c'est une résistance envers soi, envers la société aussi. On peut dire, moi, je retrouve mon rythme. Hein? On a été fait les humains pour... on a évolué pour fonctionner à 5 km/h, qui est la vitesse de la marche. C'est la vitesse à laquelle on pense le mieux, à laquelle notre corps va le mieux. Donc, ça nous invite, ce film-là aussi, à ralentir, puis à peut-être regarder les autres ou notre environnement avec un petit peu plus d'attention, de lenteur. Mais encore une fois, c'est un film qui donne envie. C'est pas un film qui fait la morale.
Non. Est-ce que vous avez le nom du compositeur? Parce qu'on entend plusieurs de ses pièces.
Alors, c'est Maxime Lacoste-Lebuy, ou Max LL. On peut le trouver sur les plateformes, et on va sortir l'album du film dans une semaine environ, donc à surveiller sur nos médias sociaux Happy Made to Walk. Maxime, en fait, j'ai découvert sa musique en ligne. Puis ensuite, j'ai découvert que c'était un Québécois et même un Montréalais.
Donc, le monde est petit.
J'ai commencé, ben oui, je suis tombée en amour avec sa musique. Et puis, j'ai dit, ben il faut absolument que je le contacte pour composer de la musique du film. Et après, j'ai découvert qu'il était Québécois et même Montréalais. Donc, voilà. Comme
J'allais dire un beau match, en tout cas, un beau mariage. Sa musique est juste là où il faut. À pied, donc, un film qui nous donne envie de sortir, de marcher. Et le film a été présenté dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma le 27 avril. Il est à l'affiche depuis la semaine dernière, mais il continue là, d'être présenté. Il y a plusieurs dates encore.
On est très contents parce qu'on est renouvelé donc dans 6 cinémas au Québec.
Bravo.
Pour une deuxième semaine. Donc, c'est vraiment, on est hyper contents. Donc, c'est Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, Montréal et est-ce que j'en oublie un? En tout cas, puis moi, je me promène.
De toute façon, j'imagine qu'on peut avoir des informations facilement là, quand on...
Ah oui, on Maison 4 tiers ou Happy Made to Walk sur les médias sociaux. Et puis, voilà, donc on est en salle encore une bonne semaine. Ça vaut la peine de le voir sur grand écran, je pense.
Si on peut y aller à pied, ça sera encore mieux.
Ben oui, si on peut.
Bon,
ben oui.
Merci beaucoup, Valie Fugulin. Puis encore une fois, bravo pour votre film.
Merci infiniment.
Bonne journée.
Au revoir.
Styles, As It Was.
Chanson qui met de bonne humeur, si vous ne l'étiez pas déjà. Vues et Voix célèbre cette année ses 50 ans d'existence depuis sa fondation en 1976 sous le nom de la Magnétothèque. L'organisme œuvre à rendre la lecture accessible autrement, notamment grâce aux livres audio et à la radio. Et pour en savoir plus, Marjorie Théodore, qui est à la tête de l'organisation depuis plusieurs années, est avec nous pour parler de l'organisme. Bonjour Marjorie.
Bonjour Hélène, merci de me recevoir.
Ben, ça me fait très plaisir de vous recevoir dans votre studio, notre studio.
Oui, tout à fait.
Alors Marjorie, Revenons au début. Là. Dans quel contexte est né Vusez-Voix?
Ouais, si on remonte en 1976, avril 1976, c'est toujours, il faut le dire, le fondateur André Hamel qui voulait une aide pour terminer ses études à l'Université de Montréal. Donc, voulait vraiment faire enregistrer les livres, ce qu'on appelle les livres didactiques à l'époque scolaire. Alors, il a été voir notre pendant à l'époque aux États-Unis, qui était Recording for the Blind, qui a changé de nom aussi dans les années après. Et il est revenu au Québec et puis il a fondé la Magnétothèque qui, dans son premier mandat, était uniquement pour l'enregistrement, pour aider les élèves à poursuivre leurs études. Donc, c'était ça le premier mandat de la Magnétothèque.
En 1976.
C'est ça,
l'année des Olympiques.
Ouais.
Et Marjorie, comment vous définiriez aujourd'hui là, la mission de Vusez-Voix? Parce que ça s'est transformé au fil des années.
Oui, tout à fait. Parce que lorsqu'on parle de 76, en 86, donc 10 ans après, le ministère de la Culture et des Communications du Québec a donné l'appellation bibliothèque spécialisée à la Magnétothèque, qui maintenant, au lieu de produire les livres uniquement scolaires, a commencé à produire les livres de loisirs, le roman, etc. Donc, cette mission-là s'est poursuivie dans mm-hmm. le temps. Donc, on a produit les livres de toutes sortes et pour des publics un peu plus élargis. Donc, dans un premier temps, c'était les personnes qui avaient une déficience visuelle, les personnes non-voyantes. Et ensuite, on a poursuivi avec les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, les personnes handicapées qui ne peuvent pas tenir un livre, etc. Donc, ça s'est ouvert comme ça dans le temps. Mais quand même, dans la mission première qui se poursuit, notre premier public cible, c'est toujours les personnes qui ont une déficience visuelle.
Et la Magnétothèque a changé de nom.
Oui.
Pour Vusez-Voix. Pourquoi?
Oui. Alors, c'était en 2011, on a changé de nom parce que, bon, on voulait être un peu dans le vent. On n'utilisait plus non plus le support magnétophone et cassette. On était beaucoup dans l'ère du CD hein, à l'époque. Et on s'est dit magnétothèque, magnétophone, on voulait faire un petit changement. Et puis, on a consulté et puis les gens étaient ouverts, le conseil d'administration aussi. Et on a trouvé le nom de Vue et Voix. Et ce qui était intéressant avec ce nom-là, c'est que c'est une personne même non-voyante qui nous a fait toute la phrase. Puis on a dit « wow, c'est le nom », c'est-à-dire que c'était beaucoup de bénévoles hein, qui prêtaient leur voix. Alors, pour redonner la vue à une personne non-voyante. Donc,
il y a une réflexion derrière ça.
Il y a une belle réflexion
derrière.
Et puis, on était très, très heureux de tout ça. Ouais.
Donc, Vusez-Voix d'aujourd'hui et depuis quand même quelques années, ne se limite pas au livre audio, mais inclut aussi la radio et une approche plus large de l'accessibilité. On est la voix de l'inclusion. Comment ces volets-là se déploient-ils?
Oui. Bien, la radio, d'ailleurs, Canal M, pourquoi le M? Bien, c'est parce qu'on avait quand même un petit souvenir qu'on voulait
oui.
garder de Magnétothèque. Donc, alors, c'est bien pour ça le M a été gardé.
Et non pour Marjorie.
Non pour Marjorie. Je suis pas assez narcissique, mais j'aurais pu. Alors, voilà. Et donc, la radio qui aussi a vu le jour en 86. Donc, normalement, la radio a 40 ans à l'intérieur de...
Bonne fête, Canal M!
Voilà. Et puis, donc, c'est ça. Et dans un premier temps, c'était uniquement la lecture aussi de ce qu'on appelle l'information éphémère, les magazines et tout ça, les journaux. Mm-hmm. Et aussi, donc, la radio a évolué aussi parce qu'on a mis des émissions dans l'inclusion.
Oui, une vraie grille horaire.
Une vraie grille horaire et une belle programmation.
Ouais.
Et puis, on parle de la diversité dans son sens le plus large. Donc, on va toucher aussi dans les émissions, des émissions contre l'homophobie, des émissions aussi pour les communautés noires. Les femmes et tout ça, donc les personnes...
qui n'ont pas nécessairement toujours la tribune pour s'exprimer.
Exactement. La tribune pour exprimer. Puis aussi, Hélène, je dirais, la façon d'aborder le sujet aussi. Dans les radios plus traditionnelles, des fois, c'est escarmouté un petit peu au niveau de...
On a du temps ici.
On a du temps.
C'est un grand luxe.
D'aller en profondeur et de nommer les choses comme elles sont. Ouais. Donc, alors, surtout, c'est des gens qui vivent aussi le problème, qui en parlent. Donc, alors, on est bien à l'aise. Ouais.
C'est une radio précieuse.
Voilà, tout à fait.
Rare. Et vous, Marjorie, Canal M, le M, on a bien compris là, que c'était pour Magnétothèque, mais ouais. Vous êtes impliquée dans la Magnétothèque et dans Visez-Voix depuis aussi. Quand même quelques années. Qu'est-ce qui vous a personnellement motivé ouais. à poser votre candidature un jour pour diriger ouais. Visez-Voix? Mais avant de diriger, vous avez fait autre chose, vous aviez d'autres rôles.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Avant de diriger, j'étais plus dans le développement et communication, dans un poste au sein de Visez-Voix, qui était la Magnétothèque avant. Moi, c'est parce que j'aime beaucoup la culture et puis le livre et tout, puis je me dis tout... Un être humain, ça fait partie de ta fondation aussi. Donc, l'accès à cette culture-là, la richesse de l'information. Donc, ça m'a toujours animée. D'ailleurs, mon premier diplôme est en journaliste communication. Donc, alors, l'information était importante pour moi. Donc, alors, quand je suis venue, c'était de dire comment... parce qu'on perd la vue, qu'on n'a pas accès à toute cette information qui est si riche que tout le monde peut avoir accès ouais. Lorsqu'on a nos yeux, l'ouïe et tout ça. Donc, alors, un handicap ne peut pas empêcher. Donc, ça a été une motivation première d'être là. Et puis, bon, j'ai eu aussi un épisode personnel de perte de la vue aussi. Et ce qui m'a stressée pendant ces 48 heures où j'ai perdu la vue, c'était de dire, oh mon Dieu, je pourrais pas, j'étais au cégep à l'époque, je pourrais pas terminer mon cégep, je pourrais pas aller à l'université. Donc, c'était
vous voyez, plein de portes fermées, là.
En train de se fermer, ouais. Exactement. Heureusement, c'était transitoire, donc ouais. J'ai retrouvé la vue. Mais tout ça a fait que la mission de la Magnétothèque, Visez-Voix, était vraiment importante pour moi. Et à travers le temps, on s'est tellement déployé comme organisation. Donc, le défi, je suis une femme de défi, mais il y avait toujours eu des défis, même si c'est financier, même si tout ça, donc l'ouverture, les stratégies. Donc, c'est des choses qui m'ont tenue quand même très motivée.
Et qui vous tiennent encore motivée. Il y a toujours exactement. Des défis. 50 ans, c'est un jalon important. Que représente cet anniversaire pour vous, pour l'organisation?
Bien, pour moi, c'est de dire comment une organisation peut traverser les époques, mais en se transformant, parce que la Magnétothèque de l'époque n'est plus comme telle, parce que bon, on s'est toujours actualisé, mis à jour et tout, et puis aussi, on est intéressé aussi avec l'intelligence artificielle, comment on peut avoir, on a eu une conférence pour parler de ça aussi.
C'est toujours donc, disponible sur notre site internet,
oui,
hein, toujours. Si on veut écouter toutes les
conférences,
entrevues.
C'est sur notre chaîne YouTube. Donc, alors, c'était aussi pour nous mettre aussi sur la page, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais ce n'est pas parce qu'on est une organisation de 50 ans qu'il ne faut pas regarder qu'est-ce qui se passe là.
50 ans, c'est jeune.
Exactement, oui, c'est ça, tout à fait.
Oui, il ouais. faut être toujours dans le coup, dans l'actualité.
Oui, c'est ça.
Avoir nos valeurs, mais aussi être ouvert. Sur tout ce qui se passe là, comme progrès.
Exactement. Là, ouais. Puis c'est une crédibilité aussi. Ce sont des compétences qui se sont ancrées là, donc sûres dans le temps. Donc alors, 50 ans pour une organisation à but non lucratif et c'est de rester en vie, c'est quand même un exploit.
Marjorie, 50 ans, on a commencé à célébrer, souligner en tout cas, oui. En avril 2026, mm-hmm. mais on va continuer à le faire tout au long de l'année. Je suis certaine que je vais avoir l'occasion, si vous êtes d'accord, à vous réinviter là, pour que vous nous parliez de qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y a plein de choses là, qui sont en train d'être préparées, mais comment vous comptez souligner ce 50e anniversaire? Est-ce que vous avez quand même quelques
oui,
idées?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est sûr que pendant, nous, ce qu'on voulait, c'est que vous allez voir aussi sur nos médias sociaux, on va souligner, on va faire une belle ligne de temps aussi, souligner aussi l'évolution de Visez-Voix, les bénévoles. On fait aussi une campagne de sociofinancement pour les 50 ans. Donc, on voudrait ramasser 50 000 mm-hmm. Pour cette chose. Puis dire aux gens, on est là, mais on a besoin quand même d'aide, toujours.
De soutien.
Et on veut terminer aussi ça en décembre, en début décembre, avec une belle activité. On va avoir la date précise, mais ça va être dans le début décembre. Une belle activité pour nos 50 ans physique, où on va recevoir nos gens, les partenaires, et on va avoir une prestation humoristique. Mmh. Alors, des humoristes qui vivent un handicap. Donc, on va démystifier ça. Et puis, rire aussi de ce qu'ils vont nous permettre d'avoir comme... comme blague et tout ça. Donc,
Oui. Mais ça promet, ça
oui,
promet.
Oui, tout à fait.
Puis, comme je disais, on va avoir l'occasion de vous réinviter parce que
il y a plein de choses.
Plein de bonnes raisons
exactement.
Pour vous réinviter.
Ouais.
Ma dernière question, c'était si vous aviez un souhait pour les 50 prochaines années de Vusez-Voix, quel serait-il? Mais il reste 30 secondes, peut-être.
Ah, c'est vraiment de poursuivre et puis de jamais lâcher. Puis voilà,
oui,
pour un autre 50 ans.
C'est vous, Marjorie Théodore. Poursuivons et ne lâchons pas.
Voilà.
Marjorie Théodore, PDG de Vusez-Voix, merci d'être là et puis continuez votre beau travail.
Merci beaucoup, Hélène.
Félicitations à Vusez-Voix pour ses 50 ans et à Canalem pour ses 40 ans
oui.
également.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Quelle belle pièce qui s'intitule « Variation à la claire ». Vous avez reconnu un motif de « À la claire Fontaine ». Et c'est une des pièces qui fait partie de l'album « Douce folie saisonnière » par le pianiste Nathan Loignon. Bonjour, Nathan.
Bonjour.
Nathan, pianiste, compositeur, qui est une personne autiste aussi et qui a un talent fou pour la musique. D'ailleurs, le grand public... Je suis portée à dire vous parce que j'ai appris à faire de la radio comme ça, mais tu es beaucoup plus jeune que moi. Alors, peut-être que je vais te tutoyer. Est-ce que tu permets que je te tutoie, Nathan?
OK.
OK? Alors, tu peux me tutoyer aussi. Donc, le grand public t'a découvert à l'émission « Quel talent 2024 ». Tu as obtenu le Golden Buzzer. Ça veut dire quoi, ça, le Golden Buzzer?
C'est genre... un coup de cœur.
Oui, OK. Donc, on pèse sur un vrai buzzer, puis on dit, ouais. Ben, c'est une révélation, on l'aime, on le veut. Il y a même Serge Denoncourt, qui est quand même assez sévère, metteur en scène bien connu, juge sur plusieurs émissions, qui a pleuré en écoutant du Nathan Loignon. Alors, parce que tu disais, en dehors des ondes, je m'appelle... Il y a certaines personnes qui m'appellent l'oignon parce que je peux faire pleurer. Alors, je pense que tu es un pianiste, mais tu es aussi un humoriste. D'une certaine façon, tu aimes ça faire rire aussi. Hein?
Je sais pas.
Bien, tu m'as fait rigoler. Pendant qu'on écoutait la pièce, j'avais envie de pleurer parce que c'est très touchant, mais tes propos me faisaient sourire et rigoler. Alors, Nathan n'est pas seul. Il est avec. Vous êtes avec qui, Nathan? Je vais vous laisser présenter.
Mon père.
Votre
Bonjour,
père.
Papa.
Comment il s'appelle ton père?
Christian Loignon.
Christian Loignon.
Ben, bonjour.
Bonjour, Christian Loignon. Est-ce que vous, Christian, vous êtes doué en musique?
Aucunement.
Aucunement.
Aucunement. J'aimerais tellement me vanter de dire, hey, il retient de son père, mais aucunement, ni de sa mère. Ça vient de
mais
lui.
Mais là, c'est comme magique, là. J'ai lu que vous aviez découvert votre talent ou votre amour pour le piano. Ouais. Vous aviez 14 ans. Est-ce que vous êtes capable de nous dire comment ça est arrivé, là? Un jour, il faisait beau, je sais pas. Vous avez regardé une application, hein, je pense, sur votre téléphone?
Oui, sur mon téléphone. J'avais genre un petit application de piano. J'ai commencé genre à pianoter, puis ça... Je me suis dit, hey, mon Dieu, j'adore ça.
Ah oui?
Ouais.
Est-ce qu'il y a des pianistes qui vous inspiraient avant que vous ayez envie de composer vous-même?
Non.
Non? Vous n'étiez pas un auditeur de, je ne sais pas moi, André Gagnon, Alexandra Streliski? Ouais.
Je ne connais pas ça, moi.
Pas du tout. Ouais. Et puis, comment vous faites pour composer, là? Vous vous installez, vous avez un piano chez vous?
Oui.
Oui? Puis, comment ça vient, les idées, pour composer?
Ça vient tout seul. Parfois, ça vient tout, là, genre.
Oui, puis qu'est-ce que vous aimez interpréter? Comment vous définiriez le style de Nathan Loignon? Là? Est-ce que vous aimez... Là, on a entendu une chanson plutôt... une pièce plutôt triste, mais à l'émission Quel talent, ça swingait, ça vous me permettait ouais. l'expression un peu plus. Qu'est-ce que vous aimez composer en particulier? Vous regardez votre père, là, Christian.
Nathan, il peut composer suite à une marche dans la forêt.
Oui.
Nathan peut composer suite à une déception, de la colère. C'est ses émotions qui guident sa musique.
Oui. Un vrai artiste,
oui,
quoi.
Oui.
Oui.
Un rien peut l'inspirer.
Et le lancement de l'album a été fait récemment. Est-ce que ça s'est bien passé?
Très bien.
Oui. Comment vous vivez avec la popularité? Parce que depuis que vous avez participé à cette émission-là, c'était en 2024, j'imagine qu'il y a des personnes qui vous reconnaissent, je sais pas, moi, dans la rue, au centre commercial. Est-ce qu'on vous arrête? Hey, c'est Nathan Loignon.
Ça m'a déjà arrivé, là, ça va
ouais.
calmer. Là.
Ça, c'est en train de se calmer, mais je sais pas, là, parce qu'avec un nouvel album, on va entendre votre nom circuler. Et... Mais est-ce que vous aimez ça, Nathan? Je pense du tout, vous. Est-ce que tu aimes ça, toi, te faire, félicitations, Nathan, on aime ce que tu fais. Oui, ce sont des fleurs qu'on vous lance, mais de te faire arrêter dans la rue, là, pour jaser un peu. Qu'est-ce que ça te fait?
Ça me touche.
Ça te touche, oui. Et puis, est-ce qu'il y a des projets pour Nathan?
Il y a plein de projets en préparation mais tu sais, c'est en préparation.
OK, ça demeure secret.
Ça demeure secret. Ouais. Son équipe travaille fort pour plusieurs autres projets.
Oui, une équipe de professionnels. Là, oui, c'est oui. GSI Musique. Avec Nicolas Lemieux, oui. qui est devenu votre gérant. On va écouter une autre pièce qui fait partie de l'album « Douce folie saisonnière » de Nathan Loignon. Et allons-y donc, Mathieu, avec la pièce « Evergarden ». C'est celle qui termine l'album. Evergarden, est-ce que tu te souviens, Nathan, qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que tu sortais de la forêt quand tu as composé la pièce Evergarden?
Non, mais c'est... Comment je dis ça?
C'est arrivé comme ça, je sais pas, t'étais au piano, parce que ton père disait que souvent tu vivais des expériences qui faisaient en sorte que ça se transformait en musique.
Ouais.
Mais nécessairement, tu te souviens pas de toutes les expériences liées à toutes les pièces, je sais pas.
Il y a une pièce que je me suis inspiré pour quand je me suis promené en forêt. Mais...
Oui.
Cette pièce-là...
The Forest.
OK, c'est une autre qui fait partie de l'album. Et est-ce que tu aimes la nature?
Beaucoup.
Beaucoup. Et ton père disait aussi, pendant qu'on écoutait la pièce, que Chopin est entré dans ta vie... puis c'est un compositeur qui t'inspire aussi.
Ouais.
Ouais, que tu as connu après là, après t'être mis au piano.
Ouais.
Nathan va avoir 20 ans demain.
Oui.
Hein? Vusez-vous va avoir A 50 ans, Canalem 40 ans, Nathan 20 ans. Et est-ce que tu vas faire quelque chose de spécial pour célébrer ton anniversaire? Nathan, tu regardes ton père.
Ça va être tranquille, probablement. Oui. On va être sur la route. C'est sûr qu'il va y avoir un gâteau, mais tu sais, ça va être tranquille en famille.
Oui. Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Est-ce que je peux te poser cette question?
Oui, j'en ai deux frères.
OK, parce que toi, tu es né aux Philippines et tu es arrivé en Beauce. Mmh. Expliquez-nous, là, c'est quoi le rapport, là?
C'est une histoire d'adoption.
Oui.
Moi, ma conjointe, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Fait que notre solution, c'est venu vite. Après avoir appris qu'on pouvait pas avoir d'enfant, c'est venu vite. Hey, on va aider un jeune homme, un enfant qui a besoin de nous. On s'est tourné vers l'adoption internationale, puis on répondait à tous les critères des Philippines, parce que c'est vraiment exigeant. Ils ont des critères sévères.
Oui.
Fait qu'on répondait à tous les critères. Mais il fallait que ma conjointe ait 27 ans. Puis le jour de sa fête, à ses 27 ans, on déposait le dossier de demande d'adoption à l'agence Formons de famille. Symbolique.
Est-ce que ça a été long avant d'avoir des nouvelles et que Nathan arrive dans votre vie?
Nathan, ça a pris un 17-18 mois d'attente.
Ah, OK. Ouais. Faut être patient.
C'était pas long. Parce que ça s'est dans les dernières années, ça s'est vraiment prolongé, assez qu'aujourd'hui, aux Philippines, c'est fermé, puis même l'agence aussi est fermée.
Alors, vous avez été chanceux.
Oui.
Et quand Nathan est arrivé, il était bébé, quand il est arrivé au Québec?
10 mois.
Ah, 10 mois.
Vraiment un beau bébé.
Oui.
Nous, c'est Chantal Lacroix qui est venue nous
présenter. Oui, l'animatrice
Nathan
chroniqueuse.
Pour donner au suivant. Fait qu'il est habitué de nous faire pleurer, Nathan. Là, oui. Vraiment des belles émotions.
Oui, toute une histoire. Peut-être qu'un jour, on va écrire ton livre, Nathan. L'histoire de ta vie. Nathan Loignon, en plus, c'est un nom qui sort de l'ordinaire, qui sort des sentiers battus. Et est-ce que tu as une routine de musicien? Est-ce que tu joues à tous les jours du piano?
Beaucoup.
Beaucoup, beaucoup? C'est ce que tu fais beaucoup dans la vie?
Parce que je pourrais jouer pendant toujours. Là.
Ah oui?
Il y a des parents qui ont des gamers à la maison qu'il faut qu'ils aillent leur dire « couche-toi, là,
ouais,
t'as, t'as de l'école demain, ben moi c'est un pianiste, faut que j'y aille dire « couche-toi, là, t'as du travail demain,
c'est mon jeu vidéo
toute la nuit. »
Et quand vous dites « t'as du travail demain », qu'est-ce que tu fais en dehors de jouer du piano, de composer des pièces?
Je travaille dans un magasin. Ben, oui. Préparation, commande en ligne, on dit.
Oui, t'aimes ça?
Il travaille en... C'est bien de le noter.
comme ça.
C'est bien de le noter parce qu'il travaille pour Chapo Bin. C'est comme un mini Costco, mais qui engage des gens avec des différences.
Ah oui.
Il y a un éducateur spécialisé à même le commerce, puis qui encourage
Un commerce
des
qui
gens.
Est situé en Beauce?
En Beauce, puis je crois qu'il y en a un à Lévis et Québec. Fait que c'est vraiment particulier. Fait que le personnel, 80 % du personnel, c'est des gens avec des particularités.
Bon, alors tu t'es fait des amis là-bas, Nathan?
Tout le monde sont gentils.
Oui, oui. Mm. Et est-ce qu'ils savent que tu es un pianiste?
Oui. Oui.
Et Christian, comme parent, qu'est-ce que vous avez appris en accompagnant Nathan dans son parcours artistique, son parcours personnel?
Ben, appris, je suis comme en arrière de lui, je flotte sur son nuage. Je l'accompagne dans toutes ses sorties, puis je suis toujours en admiration.
Oui.
Moi, d'une fois à l'autre, c'est comme si c'est la première fois. Je me tanne pas de l'entendre, de le voir, parce que quand il s'assoit au piano, là, c'est plus le petit Nathan gêné qu'on voit au micro, là.
Mais il n'est pas si gêné que ça.
C'est de le voir se transformer.
Oui.
Il devient un pianiste, un grand pianiste au piano.
Est-ce que, justement, on va pouvoir le voir, ce grand pianiste-là, sur une scène bientôt?
Oui, sa compagnie de gérance travaille sur le spectacle.
Ouais.
Il va à ses pièces, voir des pièces de d'autres artistes à la manière de Nathan. Fait que ça va être très, très, très prometteur.
Bien, vous nous tiendrez au courant,
ben
là,
oui.
Parce qu'on va en parler, puis on aimerait aimerait aussi être dans la salle, parce que tout ce que vous faites, en tout cas jusqu'à maintenant, là, moi, j'ai découvert votre talent, votre album « Douce folie saisonnière » avec énormément d'émotions. Bien là-dessus, je pense qu'on va se dire au revoir et on va se laisser avec une pièce qui s'intitule « Maman de cœur ». Vous allez encore nous faire pleurer.
Maman,
vous,
juste un petit mot. « Maman de cœur », il l'a composé pour les mamans d'adoption.
Ah oui.
Parce qu'en adoption, on parle souvent de « maman bedon », mais il y a aussi les mamans qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est des mamans de cœur.
Maman
fait que Nathan, c'est pour leur rendre hommage.
Et vous rendez hommage à votre maman de cœur. Quel est son prénom?
Marie-Andrée La Rochelle.
Marie-Andrée La Rochelle, qui est toujours...
Elle nous a quittés 24 juin dernier.
Bon, alors, on vous présente...
Beaucoup de son album a été composé avec la maladie de sa mère. C'est un album tout en sérénité qu'on peut, des fois, entendre de la colère, de la tristesse, aussi de l'espoir.
L'album, c'est pour elle.
Oui.
Nathan, merci. Christian, merci. Je parlais avec Nathan, un homme très, très talentueux et son père qui est complètement présent pour son fils. Et on salue aussi la mémoire de votre mère. On va se laisser justement avec cette pièce « Maman de cœur » qui lui est dédiée, mais aussi à toutes les mamans qui ont adopté un enfant ou plus. Merci Nathan, puis bonne suite.
Merci beaucoup.
Thank you.
Fait que, on peut le dire maintenant, Mathieu, le dictionnaire Le Petit Robert 2027 a accueilli une nouvelle vague de mots hier à l'occasion de son 60e anniversaire. Et les ajouts touchent notamment les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, l'environnement, la santé mentale, le langage populaire. Dans le Journal de Montréal, on nous propose une trentaine de ces nouveaux mots ou expressions. FAC, vous allez dire quelque chose, Mathieu?
Mais c'est certain qu'on a pensé à vous quand on a vu les ajouts au dictionnaire.
Bon, au moins, ça fait du sens, c'est pas là encore.
Ça sent
FAC,
bien.
Expression québécoise signifiant donc ou alors ou du coup. Et il y a également, il y en a plein, là. Qu'est-ce que je pourrais vous. Banjé, ça dit quelque chose? Une œuvre ou une chanson particulièrement réussie?
Ouais. Ah, non.
B-A-N-G-E-R, c'est dans le dictionnaire maintenant. Low-tech, dans le dictionnaire Robert de 2027, technologie simple et durable. Low-tech, fast fashion, mode produite rapidement et à bas prix. Tourisme médical, voyage à l'étranger pour recevoir des soins. Régénératif, qui aide à restaurer l'environnement. Slackline, un sport d'équilibre sur une sangle suspendue. Aquafaba, de l'eau de cuisson, des pois chiches utilisés en cuisine. Un mot que j'ai vu récemment, je me demandais c'était quoi? Bibimbap, c'est un plat coréen à base de riz et de légumes. Il y a aussi onigiri, ça, je pensais que c'était déjà dans le dictionnaire. Ce sont des boulettes de riz japonaises. Thé aux perles, tintamarre, défilé festif acadien bruyant. Il était temps que tintamarre y soit. Génération Alpha, personne née à partir des années 2010. Et du côté des noms propres, là, je me tourne vers Le Devoir. Jeanne Mance arrive au Petit Robert plus de 350 ans après sa mort, mais aussi les auteurs québécois bien vivants Michel Rabagliati et Wajdi Mouawad. D'ailleurs, la maison d'édition vient aussi de lancer une édition canadienne de son Robert Junior qui comporte des pages consacrées aux Premières Nations et qui parle aussi de cégep, de maringouin, de tuc et de rôti. Et du côté du Petit Larousse illustré, dont l'édition 2027 sortira en juin, on a retenu les québécismes claque, comme dans meneuse ou meneur de claque, personne qui encourage les joueurs d'une équipe lors d'un match. Bouquetière, qui porte un bouquet lors d'un mariage. Réduflation, stratagème commercial qui consiste à réduire les quantités d'un produit plutôt que son prix. Fait que c'est presque ça qui est ça.
Tous des bangers.
Ah, banger, ouais. OK. C'était la prononciation qui était déficiente. Merci d'avoir été là. Merci, Mathieu. On se retrouve demain.